Bonjour à tous et bienvenue dans Overtime, le podcast sur l'actualité des sports auto-américains du F-Racing. Pour m'accompagner cette semaine, Adrien. Salut Adrien.
Salut Geoffroy, bonjour tout le monde.
Et Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, hello à tous.
Alors le programme est très dense encore cette semaine. On va parler de Martinsville en Xfinity en truck. On reviendra un petit peu sur également les déclarations entre Denny Hamlin et Marcus Smith qui ont beaucoup fait parler. On présentera le Texas qui arrive. On parlera de Nashville Fairgrounds qui pourrait bientôt revenir au calendrier de NASCAR. De l'écurie Prema qui arrive en IndyCar. Des 500 miles d'Indianapolis avec les essais, les premiers essais qui ont eu lieu hier et qui ont été annulés aujourd'hui jeudi. On parlera également de la Trackhouse en MotoGP, puisqu'il y a une course de MotoGP du côté d'Austin. Et Adrien a 2-3 petites infos croustillantes, notamment avec une certaine Chevrolet et Camaro.
Ouais. Attends, je me refais un petit tour en onboard.
À tout à l'heure.
C'est ça.
La vidéo faisant 12 heures, on va continuer tous les deux, Lilian.
Allez.
Allez, ce que je te propose, Lilian, c'est de commencer tout de suite avec la NASCAR. On avait deux courses de série nationale en plus de la Cup sur le superbe short track de Martinsville. La Truck et la Xfinity, Lilian, et dans les deux cas, on peut le dire, ça a été un petit succès. Ça a été bien plus sympathique que la Cup du dimanche.
Bah oui, bah là, il n'y a pas de next-gen en Truck et en Xfinity, et oui, ça reste des courses sympathiques à regarder, un peu plus dans les habitudes de ce qu'on voit, quoi. Et donc pour revenir sur le classement, donc dans l'ordre chronologique, c'était la Truck et c'est Christian Eckes qui va décrocher donc du coup sa deuxième victoire de la saison, hein, déjà.
Oui.
133 tours menés sur les 200 initialement prévus. Donc voilà, clairement au-dessus. Ty Majeski, toujours leader du classement général, termine deuxième. Après Chase Purdy termine troisième, Nick Sanchez quatrième, Tyler Anclum cinquième, Raja Carus pour parler d'un pilote qui fait quand même l'actualité septième, et puis après globalement je sais pas si toi tu vois d'autres pilotes en particulier de qui on pourrait parler.
En train de regarder, non.
Ty Dillon 23e.
Oui, mais on avait dit non. Grant Ensinger, 22e. Parmi les
c'est
pilotes
vrai.
Qui sont censés ouais. jouer le titre, enfin, Stewart Friesen, 19e, voilà, ça fait partie des mauvais résultats.
Donc, oui.
Donc voilà, ça avait été une course j'avais bien aimé la regarder, qui a été dans la nuit vendredi à samedi, je crois, pour nous en France, Lilian.
Ouais,
et
c'est ça.
Ça avait été. Voilà, ça avait été dynamique, même si on avait eu que trois pilotes qui ont mené. Hein. Christian Eckes, Ty Majeski et Nick Sanchez qui a mené un petit tour. Mais j'avais apprécié suivre la Truck. La Truck à Martinsville, c'est souvent très sympathique.
Ouais, puis c'est un format assez court, donc.
Oui.
200 tours en Truck, c'est largement suffisant.
Effectivement. À peine 2 heures de course, hein, 1h52 pour ceux qui voudraient être abreuvés de stats. Et il y a eu 15 minutes de plus sur la Xfinity, 2h07. Et c'est Arik Almirola qui s'impose sa première vraie victoire en Xfinity avec la Gibbs.
Et c'est sa première victoire sur short track aussi même. Il me semble qu'ils avaient dit ça à l'arrivée.
C'est bien probable. C'est bien probable.
Mais bon, Dieu était avec lui, hein, vu son sponsor, rien ne pouvait lui arriver.
Et exactement, il mène 148 tours, il s'impose. Et pourquoi j'ai mis des guillemets autour de vraies victoires pour la Gibbs tu te souviens, Lilian?
Oh, il a dû être pénalisé.
Non, c'est pire que ça. C'est en 2006, donc il faut remonter à quelques années en arrière. 2006 sur le Milwaukee Mile,
oui. Oui, je me rappelle.
La Xfinity était au Milwaukee et la Cup était du côté de Sonoma en Californie, donc pas tout à fait le même endroit du globe. Et il palliait l'absence de Denny Hamlin qui était en Xfinity et Denny Hamlin en Cup pardon et Denny Hamlin était revenu de ses essais ou des qualifs de Sonoma pour faire la fin de la course. Et donc il y avait eu changement de pilote et comme en NASCAR le règlement dit c'est le pilote qui prend le départ qui marque les points et que Denny Hamlin est allé gagner la course, ben, la victoire était revenue. Ah, rien qu'Almirola. Mais Almirola, il avait fait sa tête de con, il avait dit la victoire, j'en veux pas, le trophée, j'en veux pas. Je crois qu'il n'était même pas allé sur la Victory Lane.
Oui, bon, ce qui peut se comprendre, hein.
C'est ce qui peut se comprendre. Là, c'est clairement le rôle du remplaçant. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, il avait un peu une revanche à prendre avec la Gibbs. Et une victoire à aller chercher, donc là c'est fait, une victoire qui souffre d'aucune contestation.
Oh bah, la Gibbs qui était... Voilà. Si en Cup, ça a été plus compliqué, en Xfinity, ils étaient largement au-dessus.
Ouais,
Parce que
ils avaient bon
John...
pneu.
Ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais.
Donc Almirola s'impose devant Sam Mayer qui est pilote pour la Junior Motorsport.
C'est ça.
Ensuite, Chandler Smith, Joe Gibbs Racing. Quatrième, Carson Coppil, pilote de la Junior Motorsport. Cinquième, Justin Allgaier, Junior Motorsport. Sixième, Sheldon Creed, Joe Gibbs Racing. Septième, Sammy Smith, Junior Motorsport.
Et huitième, Cole Custer, enfin
Un
une
pilote
autre
Ford.
écurie. Voilà, c'est ça, enfin un pilote Ford avec la Stuart Haas.
C'est ça. Neuvième meilleur rookie, Jesse Love. Dixième, on va finir le top 10, hein, on va pas s'arrêter à 9, c'est très débile.
Vas-y, 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 vas-y.
Josh Williams, et on va faire le top 11, parce que le top 11 c'est bien aussi. Le rookie Shane Van Gisbergen.
Et puis à noter. Que je dis pas de... Oui, le premier abandon de Austin Hill.
Exactement, 34e.
34e, ouais, il n'a fait que 71 tours.
Exactement, pris dans un accident avec Corey Heim, AJ Allmendinger. Et Parker Reslaff au début du deuxième segment.
Oui, il y a eu un tassement sur un restart sur la ligne extérieure et oui, ça, il y a eu un beau bazar. Hein.
Ouais, léger.
Et du coup, il perd une place au classement général. Ouais, c'est ça, il descend la troisième place à 41 points du leader Chandler Smith.
Exactement. Donc voilà. On n'a pas cité ta protégée, Ellie Diggan, 18e.
Bah, Eddie Deegan, au final, oui, voilà, qui résultat, j'ai envie de dire, presque inespéré, puisque impliqué dans un accident en début de course.
Ouais, se faire racheter l'avant.
Oui, avec l'avant de la voiture abîmée, et finalement. Elle est au-delà du tour et elle est revenue dans le tour et elle termine. Ouais, ça reste quand même très inattendu.
Oui, ça reste une perf intéressante en fait. Il a fallu qu'il y ait ce souci pour que Ellie Deegan nous sorte une course intéressante. Parce que
Je suis d'accord.
ce qu'on est en train de dire, c'est que sans le souci, on n'est pas sûr qu'elle fasse un aussi bon résultat. On ne saura jamais, hein, parce qu'avec des scies, on coupe du bois, mais c'est un petit peu l'idée que ça nous en a fait.
C'est ça.
Donc voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces deux courses, messieurs?
Pas de mon
Pas de ton côté, ouais. Si on
Ah,
a
je
dit
ne
que
l'ai pas
Chandler
vu de toute
Smith
façon.
était leader, ouais. Ah bah écoute, tu pouvais pas tout voir, hein. Il y avait tellement de choses, et puis il y avait une tellement belle course de Cup que tu t'es réservé. Et puis t'avais fait Suzuka avant au
Ah, c'était
Japon.
surtout Suzuka.
Des...
J'ai mis du temps à m'en remettre.
Suzuka, ouais, tu m'étonnes. Hein. Pour tous les fans d'Alpine, ça doit être compliqué.
Ouais. Mais on y croit.
Ouais, c'est bien. Heureusement que tu y crois, parce que si tu n'y crois plus.
Il n'y a plus grand monde, c'est ça?
Il a été couché dans le beau cercueil rose qu'il nous a envoyé en photo.
Ah, j'ai jamais dit qu'il était beau. Après, toi, si tu le trouves beau, c'est bien, mais moi, je...
Après,
Personnellement...
est-ce qu'un cercueil peut être beau? Ça...
Ouais, déjà.
Il n'y a jamais eu de retour des intéressés comme sur
Non!
ton port.
Il service après-vente.
Bref, messieurs, ce que je vous propose, c'est de basculer sur la Cup. Et avant la course de Martinsville, il y a eu quelques petits échanges textuels assez intéressants entre Marcus Smith et Denny Hamlin à propos des pistes qui sont gérées par SMI, donc Speedway Motorsports Incorporated, qui est la propriété de la famille Smith. Et pour faire simple, Hamlin, enfin non, je crois que c'est Marcus Smith qui a parlé du resurfaçage de
C'était
Northwoodsboro.
Non, c'est parti de Sonoma, où il y avait un trou dans l'asphalte, alors que la piste, elle vient d'être faite.
Où c'est parti de Sonoma. Ouais, c'est ça. C'est parti de Sonoma. Enfin bref, il parlait qu'il y avait eu des resurfaçages dans tous les sens. Et Hamlin a mis un tacle à la jugulaire, nous dirait Adrien,
Ouais.
en disant que c'était, enfin, c'était toujours de la merde et que les pistes n'étaient jamais intéressantes parce que le resurfaçage était tout le temps pourri. Globalement, si on résume, Lilian, on résume bien.
Oui, avec tes propres mots, mais oui, c'est ça.
C'est un petit peu l'idée, quoi. Et après, ils ont continué de s'écharper. C'était un peu un concours de qui pisse le plus loin pour savoir qui investit le plus en NASCAR. Hein. Ça a fini comme ça en disant que Denny Hamlin, en 4 ans, il avait plus investi avec son écurie que Speedway Motorsports Incorporated sur la dernière décennie.
Et vous connaissez les deux proverbes concernant ceux qui pissent le plus loin, hein? Oui, sans fin de
Ah,
mois, je vous le dis tout de
faut, ouais,
suite,
faut
mais.
pas pisser face au vent, sinon tu prends un coup dans la gueule.
Alors, c'est l'idée, mais c'est pas dit comme ça, c'est plus joliment dit.
Ouais, mais je suis pas, tu sais que je suis, tu sais très bien que je suis pas poète, hein. Ça se saurait si j'étais un poète.
Et ouais, non, mais le premier, c'est ça, ouais. Mais bon, c'est pour les enfants, parce que je crois que j'avais lu ça dans une BD de Titeuf de mémoire.
Oula!
Ah oui, voilà, là on est sur du haut niveau, ouais.
Bah,
Alors là, ouais,
c'est.
belle référence, ouais.
Mon frangin a 7 ans de moins que moi et c'était il y a une vingtaine d'années, donc
Ah
voilà.
mais
Il n'était pas trop
te
grand.
justifie pas, hein.
Mais c'est stylé, Titeuf, parce que Titeuf il disait que qui pisse contre le vent se rince les dents. Donc ça correspond à ce que tu dis, mais c'est une manière un peu plus élégante ou pas, je sais pas, mais un peu plus.
Ouais, enfin bon, le rinçage dedans, je tenterai pas.
Je
Hein. Et
préfère
donc,
me rincer les dents avec autre chose que plus
et
horrible,
la
mais bon.
deuxième qui est plus terre à terre, c'est la dernière goutte est toujours pour le pantalon. Voilà,
D'accord.
bref.
Ok, merci.
Donc,
Sur ces bonnes paroles.
voilà. Donc on sait pas qui pisse le plus loin du coup.
Mais oui, donc voilà, ça s'est un petit peu écharpé. Alors c'est vrai, il y a un trou à Sonoma, c'est dommage.
Bah surtout pour une piste qui vient d'être surfacée, ouais.
Oui. Après, moi, ce que je ne me souviens pas, c'est si Sonoma avait réellement besoin d'un resurfaçage.
Bah, je ne me rappelle pas avoir vu la piste abîmée lors des précédentes venues,
Ben
que
moi
ce
non
soit
plus.
la NASCAR ou l'IndyCar. Et là, on te dit que ouais, ça a été resurfacé et qu'ils ont dû annuler une épreuve de je n'ai plus la discipline en tête à cause justement bah, déjà de l'asphalte qui se détériorait par endroits.
Oui, clairement.
Donc ça
Notamment
avait besoin d'un
à.
resurfaçage alors.
Bah, oui, bah non, parce que les trous se sont faits après.
Ah, ça a été annulé après en fait, c'est ça? C'est ça que
Oui,
tu veux dire?
l'épreuve a eu. Bah oui, et donc le resurfaçage a eu lieu. Il devait y avoir des épreuves de. Je te dis, je n'ai plus la discipline en tête dessus. Et ça a été annulé à cause de ça. Et c'est pour ça que c'est monté dans les tours entre Marcus Smith et Denny Hamlin.
C'est pour
Et ce
ça
qu'il
que j'ai
faut
un
noter et
doute.
signaler, c'est que le lendemain, Marcus Smith a enlevé tous ses tweets.
Oui.
C'était pas arrivé à un autre circuit, ça? C'est Silverstone, je crois, qui avait fait un truc. Ils avaient resurfacé le circuit pour la moto, je crois. Et les mecs, ils ont dit non, mais c'est une piste de motocross, ça va pas être possible en fait. Et alors, je crois qu'ils ont quand même fait l'épreuve, mais les mecs, ils ont râlé comme pas possible.
C'était pas Austin?
Je crois qu'Austin est peut-être aussi dans le
Dans
cas.
l'eau, Austin, je me souviens parce
Ouais.
que je crois qu'avec les F1, ça créait des bosses et les pilotes en MotoGP, ils arrivaient et c'était.
Et je crois que Silverstone, c'est parce qu'il avait plu. Et
Ah
comme il avait
oui.
plu, il y avait des cuvettes, enfin par endroits, il y avait des accumulations d'eau. Et en moto, c'était juste l'horreur. Et je crois que l'année d'après, ils ont refait la piste de mémoire. En voiture, je crois que ça posait pas trop de problèmes. Mais c'est pas la première fois que j'entends ce genre Deux remarques.
Donc,
A contrario de Jeddah, alors je prends les références que je connais parce que c'est là où que je suis le plus, mais Jeddah, quand ils ont fait le circuit en Arabie Saoudite, je crois que la piste elle avait été asphaltée 15 jours avant et ils avaient dû mettre un pognon de dingue dans l'asphalte parce qu'il y avait un grip de malade, je crois. Alors que normalement, quand tu fais une piste, il faut le temps que l'asphalte travaille un peu, etc. etc.
c'est ça.
Et là, il y avait un grip de malade. Si vous reprenez les retransmissions de la course, de la première course qu'il y a eu à Jeddah, il y avait un grip de dingue.
C'est vrai.
Nous, on avait vécu ça à Daytona.
Au
Il y avait un
Daytona,
gros.
Charlotte, Indianapolis,
Oui.
Darlington, Texas.
Non, non, mais je veux dire un trou qui se fait pendant une course.
Ah, un truc sur. Oui, Martinsville, on avait eu en 2004 au printemps.
J'ai le souvenir d'une course, c'était en IndyCar sur un routier, j'ai envie de dire Toronto, mais je suis pas sûr. Ou c'est une piste où ils vont plus. Mais je pense que c'était au Canada. Donc pour moi, c'était Toronto où ils ont dû arrêter une course parce que pareil, un trou s'était fait.
Tu sais, une course qui se passe mal en IndyCar, j'ai toujours référence San José. Et Baltimore.
Oui.
Parce que non, c'est San José et Baltimore. Je crois que vous avez mis une chicane à la dernière minute pour casser la vitesse.
Oui,
Parce
parce qu'il y en avait.
que les mecs s'envolaient.
Bah, sur le passage à
Et
niveau.
sur le passage à niveau, je crois que c'était à San José et je crois que c'était sur une bosse à Baltimore.
Ah non, c'était pas triste. C'est
Non.
moche, ça.
Ah, ah non, mais Baltimore, on a vu deux éditions IndyCar et deux éditions Collector. Bijoux, comme tu veux.
Ah bah entre ça et puis le pick-up des officiels qui étaient sur la piste au dernier moment.
Oui, les mecs passent à fond sur le restart, t'as le pick-up dans l'autre sens. Tout va bien. Tout va bien. Donc ouais, donc ça c'est un petit peu frité. Et au final, fin, quand tu lis les arguments des uns des autres, j'ai envie de te dire, les deux ont raison sur le sujet qu'ils abordent, mais en fait, ils ne s'écoutent pas parler. Parce que Marcus Smith dise qu'il y a besoin d'un resurfaçage, ça et là, oui. Enfin, North Wilsboro, Adrien, on y est allé. J'ai encore deux, trois photos, je les ai encore regardées. Bon. Il y a des endroits, il y a des trous.
Ouais, mais ils ont mis des patchs, je crois, sur North Wilkesboro.
Ils avaient mis des patchs, mais tu sais très bien qu'en général, quand tu mets des patchs,
Ah, c'est temporaire.
c'est temporaire.
Bah
Juste.
là, ils ont tout refait pour cette année.
Là, du coup, ils ont tout refait, parce que après, je suis d'accord, le temporaire qui dure, c'est du définitif, mais enfin, ils avaient fait ça parce qu'ils avaient plus forcément le temps, plus forcément le budget, et que la All-Star arrivait, et que. Voilà quoi, ils avaient fait au mieux, et là ils ont décidé de tout refaire. Ils ont eu le budget en plus du gouvernement de Caroline du Nord. Donc
Ça régale.
non, mais ils ont profité.
Ouais, bah, ils ont raison.
Ils ont eu raison. Mais après, c'est aussi ce que dit Amine, c'est que bah, quand tu as une piste resurfacée, les courses au début ne sont pas intéressantes. Et c'est très souvent le cas parce que, bah, comme tu le disais, hormis pour Jeddah, en général, il y a toutes les huiles qui remontent, il faut le temps que les trajectoires se fassent.
Mais de ce que je comprends, il existe des solutions, peut-être dans certains cas et pas dans tous, qui te permettent d'avoir un truc qui marche d'entrée de jeu, quoi. Après, quels sont les compromis pour avoir cette solution et qu'est-ce que ça impacte derrière? Ça, j'en sais rien. Mais visiblement, moi, c'est le seul circuit que je connais comme ça où les mecs ils ont refait un resurfaçage et ils s'attendaient à tomber sur une patinoire et finalement, waouh. Mais bon. Ayant une expérience des circuits relativement limitée.
Après, un circuit où ça se passe toujours bien, c'est Monaco. A contrario. Parce que Monaco, tous les ans, il resurface un tiers de la piste.
Alors oui, mais alors il y a beaucoup de grippe mécanique en plus, donc l'aéro travaille pas énormément là-bas.
Ouais.
Mais je sais pas s'ils font quelque chose de particulier ou pas. Mais c'est vrai qu'ils resurfacent tous les ans là-bas. Ils resurfacent des bouts de trucs tous les ans. Hein.
Tous les ans, ils font un tiers. Donc on verra bien. Après, si on a du mono trajectoire, c'est bien aussi. Hein, sur short track, du mono trajectoire, 2-3 bumps, et puis l'affaire est dans le sac. Hein.
Pas.
Après, on verra. Hein, c'est une All-Star. La All-Star, ça fait 50 ans qu'on n'en attend plus rien.
Oh, la dernière, de mémoire, c'était quand même sympa, quoi. Donc,
Oh, Larson était tout le temps devant, il n'y avait pas eu beaucoup de spectacles pour la victoire. Hein.
Oui, et de mémoire, Larson découpe ça. J'essaie, attends, j'essaie, je vais essayer de te retrouver ça.
Ouais, je vais essayer de retrouver ça aussi.
Alors, c'était en 2023,
2023, oui, c'est mieux.
c'était une course, elle était là, je l'ai vu passer.
C'est bon, je l'ai.
Moi aussi, F5. Larson, il mène 145 des 200 tours.
Ouais, mais ça veut peut-être pas dire que c'est inintéressant.
Alors,
Est-ce...
je le remets. Il mène 145 des 200 tours.
Est-ce...
Il y a deux drapeaux jaunes. Un
Et Suarez
du
mène les
17.
55 autres.
Ouais, c'est ça. Du 17 au 20e et du 102e au 110e. T'as 1h20 de course et l'écart entre le premier et le deuxième est de 4 secondes 5 à l'arrivée.
Ouais.
Donc, enfin, voilà. Larson était au-dessus du lot. T'as deux pilotes qui mènent. Larson mène deux fois pour 145 tours et Suarez mène deux fois pour 55 tours.
Moi, je n'ai pas souvenir d'une course si désagréable, mais peut-être que c'est une course. Je m'en souviens pas, donc ça devait être une course random, quoi.
Ben, je vais te dire, je n'ai pas le souvenir d'une course transcendante.
Ouais, donc c'est une course finalement plus
Ni
traditionnelle, donc on verra cette année si ça
top, ni
change. Mais...
exceptionnel, quoi. Ni bien, ni pas bien, dans la moyenne.
Ouais, donc on verra la note des auditeurs et des personnes qui nous suivent lorsqu'on fera
Ouais.
Après, on verra, ce serait intéressant de comparer à l'asphalte, voilà, qui avait bien vécu. Puis là, un asphalte qui a quoi, même pas un an, quoi.
Mais on verra quand on fera le splash and go de North Wilkesboro. Mais je ne sais pas si ceux qui nous écoutent sur le podcast sont aussi ceux qui nous regardent sur Splash and Go quand on fait les émissions. Mais au cas où vous ne suivez que l'un ou que l'autre, à la fin des épisodes de Splash and Go, on demande la note aux personnes qui sont présentes en direct sur le chat pour savoir comment ils ont apprécié la course. Et bah, n'hésitez pas à venir, quoi.
Et nous aussi, on met une note. Et 0,75 sur 10, c'est une note.
Ouais, sauf que là, t'as triché.
C'était celle de Geoffroy.
J'ai pas tilté sur le moment, mais on avait dit pas de chiffre à virgule à la con.
Ah oh, bon, bah d'accord. Bah, ouais,
Zéro alors, du coup, ça aurait fait. Mais bref, c'est pas le sujet.
Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas encore les animations, donc on peut mettre ce qu'on veut.
Mais
Quand on
ouais,
aura les
c'est sûr.
animations, que ce sera des chiffres entiers, bah, on
Ouais,
trichera plus.
attends. Avant d'avoir les animations, on va déjà essayer
Bref.
à ce que tout le monde se prenne au jeu et après on verra avoir les animations.
Ouais, non, mais on mettra les animations comme ça, ils se prendront au jeu. Donc, waouh, c'est trop bien.
Ah,
Donc voilà un petit peu pour l'histoire Denny Hamlin, Marcus Smith, qui nous a tenu en haleine pendant quelques heures le week-end dernier, Lilian. Ça nous a bien fait rire.
c'est ça.
Ça nous a bien fait rire. Et du coup, après Martinsville, messieurs, superbe piste qui arrive au calendrier, Lilian, le sublime, l'exceptionnel, le grandiose, le magnifique, le plus beau des plus beaux, le plus grand des plus
Ah,
grands, parce que tout est plus grand au Texas, le
t'en fais
Texas
trop
Motor
là.
Speedway.
C'est ça.
T'en fais trop là. Tu surjoues un peu, j'ai l'impression.
Ah bah écoute, attends ma note.
C'est comme ça qu'ils le vendent. Hein. Tout est plus grand au Texas, hein, c'est
Tout est
vrai.
plus grand au Texas.
C'est
Ils ont un superbe écran panoramique.
le plus grand du monde.
Bon, à un moment, ce fut le plus grand du monde. Est-ce que ça l'est encore? Je ne sais pas. De mémoire, c'est Panasonic qui avait créé ce superbe écran qui est à l'entrée du virage numéro 1. Ah non, qui est dans la ligne droite arrière.
Oui, non, à l'entrée de virage. Ah, c'est pas la vitesse?
Si, à l'entrée du virage 1, c'est la vitesse, c'est ça.
Et c'est la présentation de l'écran du Texas ou c'est la présentation du Texas du coup?
Oh, c'est un peu tout. C'est la présentation du Texas Motor Speedway. Hein,
D'accord.
ovale qui a été resurfacé et reconfiguré il y a quelques saisons de cela, Lilian.
C'est surtout la reconfiguration qui pose problème.
Parce qu'en fait, on a voulu, enfin, on, c'est pas nous, hein, mais c'est FMI, pour pas les nommer, on a voulu aplanir de ce côté-là les virages 1 et 2. Donc, du coup, on a moins d'inclinaison, on a élargi le virage, mais au final, on n'a pas plus de trajectoire, et on est obligé de mettre cette saloperie de PJ1 pour créer artificiellement une seconde trajectoire qui ne marche pas tout le temps et qui avait fait des misères aux pilotes d'IndyCar il y a quelques saisons de cela, à commencer par Sébastien Bourdais, Lilian, qui s'en était mis une belle dès le départ d'une course.
Oui, et puis, comment dire? Oui, voilà, les pilotes d'IndyCar, ils l'évitaient complètement parce qu'ils n'avaient aucun grip, en fait, avec les pneus Firestone sur cette trajectoire. Donc, bah maintenant, l'IndyCar n'y va plus, comme ça, c'est réglé. Mais oui, j'ai souvenir de cet accident de Sébastien Bourdais.
Donc, comme à Martinsville, messieurs, on aura les trois séries nationales, la Truck, la Xfinity, la Cup. Comme à
Pour 400 miles.
Martinsville, c'est sur 3 jours. Ouais, bah attends, spoil pas, spoil pas,
Oh là, oh là.
spoil pas. La Truck, qui sera dans la nuit de vendredi à samedi, à partir de 19h30 heure locale, pour 167 tours et 250,5 miles, donc ce qui fait du 2h30 heure française. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous aurons la Xfinity avec 200 tours pour 300 miles. Non, pourquoi j'ai dit la nuit? Non, c'est dans la nuit de. Enfin, c'est samedi soir pour nous, puisque c'est 12h30 heure locale, donc c'est 19h30 heure française. Et dimanche, la Cup, tu l'as dit, 267 tours, 400,5 miles à 14h30 heure locale, donc 21h30 heure française. On n'a pas encore l'heure du drapeau vert, Lilian, mais un petit tour à SNCF à la 21h48, je dirais qu'on n'en sera pas trop loin.
Oui, ça va être quelque chose de très proche.
On aura 3 segments en cup pour 80, 85 et 102 tours chacun. Et oui.
Mais du coup, il pleut alors?
Du coup, il pleut.
Bah
Pourquoi
oui.
il
devrait pleuvoir?
Bah. Attends, je suis pas prêt là, tu me prends de court. Mais Ah! Je l'ai mis au Discord. C'est où? C'est que si c'est un horaire SNCF, ça démarre jamais à l'heure.
Ok.
D'accord. Les blagues à part, je suis en train quand même de regarder la météo du côté de Fort Worth pour le week-end. Et je t'annonce qu'à l'heure où on enregistre l'émission, il fait 20 degrés. Mais tu t'en fous. Vendredi, 27 degrés, en partie ensoleillé et agréable. Samedi, 27 degrés, ensoleillé, partiellement couvert et venteux. Dimanche, 29 degrés, soleil et nuages épars. Donc, tout va bien. Nous aurons des courses.
Quelque part, tant mieux.
À moins d'un trou sur la piste.
Tout de suite.
Tout de suite, tout de suite. Tu dis ça parce que c'est une piste SMI, je suis sûr.
Bah oui.
Tout de suite, il est agressif.
Bah, tout de suite, ouais, non, il... tout de suite,
Ça,
il aime.
ça...
Les trous sur les pistes, il aime pas trop ça. Donc.
Attention, terrain glissant.
Non, bah, non, 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 mais c'est vrai que les rares fois où on a eu des trous sur les pistes, ça s'est pas très très bien passé.
En général, il y a moyen que ça se passe mal, il y a moyen de tout casser.
Exactement. Exactement. D'autres choses à dire sur le Texas? Un prono? Si, un prono, Lilian. Ah si, c'est l'heure des pronos.
Oula!
Mais oui, c'est l'heure des pronos. Je t'ai pris de court, en fait.
Ah bah complètement.
Complètement, c'est pas grave. Je t'ai pris au dépourvu.
Je sais même pas qu'est-ce que j'ai pronostiqué pour cette semaine.
Daniel Emric.
Ouf!
Adrien Denis Hamlin. Gilda Ricky Stenhouse Junior et Geoffroy Ryan Preece. Autant vous dire que quand je vois les performances des uns et des autres, ça sent pas bon.
Ah, Daniel Emric, j'ai peur.
Ah ouais, mais bon. Bon, après, Lugano. Non, si Lugano, t'avais performé, toi. Non, ça va, t'as pas trop de trous dans la raquette pour l'instant.
Ah, y a, avec Byron, j'ai un peu foiré. Mais sinon, pour le reste, c'est pas trop dégueu.
Pas faux. C'est pas faux. Ah, j'ai pas regardé sur la fantasy. Sur la fantasy, parce que c'est pareil, il y a des petits pronostics à faire sur la fantasy. Toc, toc, toc. Alors, déjà, je vais vous donner les duels, les match-up. Byron Larson, Suarez Kieselowski, Wallace Reddick et Blaney Elliott. Et c'est Nico Hendrick qui est leader devant Mick 97 pour
Ouais, il est en
86
forme.
points. Ouais.
En forme, Nico Hendrick.
Donc c'est pas mal.
Mais ça, c'est parce que c'est les 40 ans de la Hendrick qu'il est devant.
C'est ça.
C'est possible, hein.
Ouais, c'est
Et les
sûr.
matchs, tu les as pour le Texas ou ils sont pas encore dispo?
Je viens de te les donner. T'écoutes un peu?
Ah! Vrai que, bah non, mais je pensais que tu revenais sur la course de Martinsville, moi.
Ben non, c'était pas cela. Martinsville, je sais pas si je peux les avoir. Attends. Je vais essayer de regarder ça. Pour Martinsville, c'était Hamlin Truex. C'était Byron Blaney. C'était Briscoe Gregson. Et c'était Logano Kyle Busch. Et je t'avoue, j'avais fait un sans faute. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de moi. Donc tu veux que je te redonne les match-up pour le Texas?
Ah bah non, c'est bon, si ça a
C'est
été
bon?
donné,
Au pire,
on est bon.
tu réécouteras le podcast.
C'est exactement ça.
voilà, faites vos jeux pour le
Rien ne va plus.
Texas. Exactement. Et essayez de mettre le grappin sur Nico Hendrick. Il ne faudrait pas qu'il plie le championnat trop tôt. Mais voilà, c'est sympa. C'est sympa ces petits pronostics en IndyCar. Non, en NASCAR, pardon. Je suis fatigué. C'est la fin de semaine. On parle de Nashville, messieurs?
Allez,
Allez,
on y va.
qui ne dit mot consent. Nashville qui pourrait revenir au calendrier des séries nationales NASCAR puisque les négociations continuent. Du côté du Nashville Fairground Speedway. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le Nashville Fairground Speedway, c'est à ne pas confondre avec le Nashville Super Speedway qui est du côté de Lebanon et qui fait 1,33 miles. Le Nashville Fairground, c'est un short track. Et à l'époque où la NASCAR voulait revenir sur les short tracks un petit peu historiques, il y avait clairement deux noms qui se dégageaient. Il y avait North Swissboro et il y avait Nashville Fairgrounds.
Bah comme tu l'as dit, ouais, le Nashville Fairground, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Bon, voilà, de manière plus ou moins, j'ai envie de dire, sérieuse. Bon, là, bon, il y a quand même encore quelques détracteurs,
Mais
mais
il y en a toujours, hein.
il y en aura toujours. Mais bon, on dirait que ça fait son chemin.
Voilà,
Après de là, revoir une course de saison régulière de Cup. Sur cette piste, il y a encore, ouais, y a encore un peu d'espoir, hein.
bah, il y a surtout encore beaucoup d'étapes administratives à franchir du côté du Nashville Fairground Speedway, donc qui est tombé sous la coupe de SMI, hein, encore une fois. Et je crois qu'il est sous la tutelle du Bristol Motor Speedway qui n'est pas très loin.
C'est ça.
Donc
Mais après, ouais, ça en faut toujours pareil, hein, en fonction des coûts, de ce que les locaux en pensent, si ça peut être utilisé pour d'autres événements, notamment. C'est, voilà, y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc, pour l'instant, rien n'est gagné. Mais c'est clair que forcément, tout fan de NASCAR que nous sommes, on demande que ça, de revoir cette piste, comme tu l'as dit, historique, revenir au calendrier.
exactement. Donc, on verra un petit peu. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour 2025. Il y a à peu près un investissement qui serait autour de 100 millions quand même, histoire de faire toutes les rénovations qui vont bien, que ce soit la piste, les infrastructures de l'infield, les tribunes. Donc,
Oui, une tribune qui pourrait accueillir 30 000 personnes.
voilà, il y a de quoi faire, il y a du travail, on verra bien, mais a priori, les choses vont dans le bon sens. Et on verra bien si ça continue d'évoluer et si Nashville peut être une solution viable en 2026, 2027, ou à un horizon encore plus lointain, ou si ça restera une chimère.
À suivre.
Voilà, et voilà, pour situer, ça ressemble un petit peu à Northwoodsboro, l'ovale de Nashville. J'ai plus la dimension exacte en tête, Lilian, je sais pas si tu l'as.
La dimension du Nashville. Alors là, comme ça, non. Je suis sur l'article de d'Arnaud, mais il n'y a pas la. Non, il y a pas. Elle n'est pas dessus.
Je suis en train de regarder.
Hop, alors j'ai ouverture 1904, non, c'est pas ça qu'on veut.
Non, c'est pas ce qu'on veut. 0,596 miles. C'est ça. 959 mètres, en fait. 18 degrés dans les virages, 3 degrés dans les lignes droites. Et la largeur de. Non, c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, un petit peu pour cette ovale qui pourrait revoir le jour. Et qui est un ovale asphalté, bien évidemment. Pour terminer, messieurs, sur la partie NASCAR, on peut peut-être parler des ratings du côté de Martinsville, Lilian, pour la seconde semaine de suite, des audiences légèrement en baisse du côté des Américains. La course était sur Fox Sports
Ouais,
One.
c'est ça, FS1, ouais.
Et donc, on est à 2 191 000 téléspectateurs contre 2 218 000. Du côté de Martinsville en 2023. Une
Oui,
légère
mais.
baisse, hein. C'est pas fou, mais c'est sûr que si on compare aux épisodes de la Fox, ben on fait pratiquement deux fois moins quand on est sur Fox Sports 1.
Et puis, il y avait quand même un événement notable. En 2023, rappelle-toi.
En 2023, sur la Fox à Martinsville?
Qu'est-ce qu'il y avait eu à Martinsville?
Ouais, mais c'était en fin d'année.
Non.
Ah
C'était en fin d'année
oui,
précédente.
ouais, il surfait sur le wall ride.
Non, 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 bah, non, bah, non, 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 c'était le retour de Chase Elliott de sa blessure.
Ah, bien vu.
Un événement marquant. Ouais, ok, d'accord.
Ah bah, pour
Ouais,
toi,
c'est
non,
vrai. Oui, c'est vrai. Pour tous ceux qui se
mais...
tripotent en tribune, oui, évidemment.
Bah, il est pas pilote le plus populaire pour rien, hein, et on l'avait vu, il y avait quand même eu une baisse drastique des audiences pendant la période où Chase Elliott était en convalescence.
Et oui, mais c'est vrai qu'il était revenu, mais il était reparti presque aussi vite. Ouais, puisqu'il avait été resuspendu pour une course. C'est un peu plus tard, mais c'était après les Coca 600. Donc voilà pour les audiences, messieurs, je pense qu'on a fini la partie NASCAR. Et avant d'aborder la partie IndyCar, Adrien, je sais que tu as deux, trois choses à nous dire sur l'exceptionnel circuit texan, et je ne parle pas du Texas Motor Speedway, je parle de l'autre,
Quota?
le circuit of the Americas d'Austin.
Ouais, bon, ce week-end, il y aura la MotoGP et donc Trackhouse à domicile.
Ouais.
Bon, voilà. Trackhouse sur Aprilia, hein, on le rappelle, ils ont récupéré David Ebrivio qui a quitté Alpine. Bon, Aprilia, je sais pas trop ce qu'il faut en espérer, mais ils seront à domicile. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une équipe de moto à domicile. Enfin, une équipe de moto américaine à domicile, parce que je ne peux pas souvenir que il y ait eu d'autres équipes américaines engagées en MotoGP. Donc on verra un petit peu comment ils vont arriver à faire monter la mayonnaise chez eux. Ils ont pas de pilote américain de mémoire en en MotoGP. Par contre, il y en a dans les disciplines inférieures. Donc je sais pas s'il y aura un petit peu de synergie. Mais bon, en tout cas, ça sera l'occasion pour Trackhouse de se mettre un petit peu en avant. Et surtout, on aura l'occasion de voir le Garage 56 qui sera emmené par Jordan Taylor, qui fera a priori 3 tours de piste. En connaissant l'énergumène, je serais étonné qu'il fasse des tours de piste soit très très gentils ou de façon très disciplinée. Je serais pas étonné qu'il y aurait un peu de gomme brûlée à peu près partout.
Tu veux dire que les limites de piste, ça va être plus version NASCAR que version FIA?
Non. Je pense que si les pneus ils font 3 tours, à mon avis, ils ont de la chance surtout.
Bah, c'est pas des pneus durs, Goodyear qu'ils vont mettre?
Je sais pas, mais connaissant Jordan Taylor, c'est un petit peu un petit clown et un énergumène, mais non, pour le moins talentueux.
T'as vu le
Mais.
clip qu'il a fait avec sa veste Jeff Gordon et la coupe mulet
Oui.
Ouais, puis avec la gamelle de Marquez, etc. C'est. Enfin, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il saura mettre le spectacle. J'espère juste qu'on pourra le voir à la télé, en fait. Moi, c'est vraiment mon seul truc. C'est, je voudrais qu'on puisse voir cette séquence à la télé et que ceux qui suivent. Moi, je suis sur Canal+. Ceux qui suivent sur Canal+ pourront le voir et ceux qui suivent sur les autres chaînes ailleurs pourront le voir. Peut-être que s'il y a un flux américain, ça sera peut-être plus facile de le voir que. Parce que je ne sais vraiment pas si ça sera diffusé. Et comment ça sera diffusé. Mais moi j'espère vraiment qu'on pourra voir ces images. Parce que je suis persuadé que ça va être le bordel.
Bah, on dirait que ça va être compliqué, mais oui, je pense que tu les trouveras facilement après sur Internet, hein, ça c'est
Donc
sûr.
voilà, si vous voulez revoir le Garage 56, il faut regarder la MotoGP ce week-end.
C'est ça. C'est une bonne idée. On passe à l'IndyCar, messieurs, dans les actualités de la semaine. On a quand même un blessé depuis le début de la saison, Lilian, chez McLaren, c'est David Malukas.
David Malukas, c'est ça qu'on n'a toujours pas vu.
Et sur la première course de la saison, plus la All-Star, c'était Callum Ilott qui l'a remplacé.
Et même pour les essais dont on va revenir après Indianapolis, c'était Callum Ilott également.
Exactement. Mais Callum Ilott pour Long Beach, il a un conflit de calendrier, puisqu'il sera a priori du côté d'Imola pour la manche de WEC. Donc, pour le remplacer, ce serait Théo Pourchaire, un Français.
Eh ben écoute, on n'en avait plus qu'un.
C'est ça. À
Je pense
condition que David Malukas ne soit toujours pas rétabli.
que. Bah ça, c'est vrai qu'on n'a aucune communication sur le sujet.
Oui, parce qu'il s'était cassé. C'était quoi? C'était une chute à vélo, je crois. Il s'est cassé le poignet.
Ouais, mais c'est vrai qu'on voit. Il n'y a aucune communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'IndyCar. Non, pas de son, pas d'image concernant David Malukas.
Ouais, c'est ça, c'est un accident de vélo en VTT.
Et après, bah, Théo Pourchaire, ouais, bah, c'est l'occasion pour lui de se montrer, hein, clairement.
Ben oui.
Ouais, je m'attendais vraiment pas à retrouver Théo en IndyCar. J'avais entendu un petit peu quelques news là, sur sa performance parce qu'il est au Japon en
Super
Super
Formule 1?
Formule 1. Ouais. Et apparemment, bon, il a peut-être pas les résultats attendus. Enfin, il n'est pas dans le haut du tableau, si j'ai bien compris. Alors, je sais pas chez qui il est. Je connais pas du tout le championnat. Donc, comme nous l'a dit Romain il y a quelques temps, en sport automobile, tes ambitions personnelles dépendent fortement du matériel que t'as. Donc, je ne sais pas s'il est là où il espérait être. Mais je m'attendais vraiment pas à avoir son nom d'IndyCar, quoi. Donc ça m'a paru un peu bizarre. Et bon, je pense qu'on en parlera juste après, mais avec la deuxième news qui a apparu après, je me suis dit, ah, peut-être que.
Effectivement, on verra bien, mais voilà, ça pourrait être un bon premier essai pour Théo Pourchaire. Long Beach étant quand même une course référence du calendrier IndyCar, on le dit régulièrement, c'est la course la plus prisée derrière les 500 miles.
Oui, c'est clair.
Après, s'il est dans la McLaren numéro 6, McLaren, c'est quand même une bonne écurie.
Ah, il aura du bon matériel, c'est clair.
Ça peut jouer la gagne. Tant mieux pour lui. Mais si avec du bon matériel d'entrée de jeu, il gagne pas. Enfin, il gagne pas. Il performe pas, on va dire.
C'est à double tranchant.
C'est à double tranchant parce que. Parce que c'est quand même une discipline où tout le monde a plus ou moins le même matériel. C'est quand même plus rugueux que ce qui se passe en F2 où la voiture elle encaisse quand même pas mal de trucs. Physiquement, c'est quand même un petit peu plus compliqué sur certaines parties du corps. Il a du bon matériel, ouais, ça peut. C'est très bien pour lui, ça lui fait une expérience, mais j'espère qu'il ne sera pas jugé trop vite si jamais ça marche peut-être pas comme il veut, quoi.
Faut pas non plus s'attendre à ce qu'il soit aux avant-postes, hein.
Non, mais justement, comme il est dans une bonne voiture, regarde Romain chez Delcoin, on avait dit ouais, top, machin et tout. Quand on s'était dit il arrive chez Andretti, ça va le faire, quoi. Et puis en fait, au final,
oui, bon, après,
tiré dessus, quoi.
Pour une première course, il va quand même falloir s'adapter, même s'il a fait du simulateur à Charlotte.
Ce que tu regardes, Kikalu Mailot, dans la 6, je reprends le classement de Saint-Pit, il n'a fait que 13e. Et pourtant, il a déjà fait une saison complète l'an dernier. Pas chez McLaren, certes, mais il était déjà dans un bac IndyCar.
Ouais, donc ça veut dire que s'il fait 13, c'est bien. S'il finit au-dessus de la 25e place, c'est pas bien. Enfin, je sais pas quels seront. Comment il sera observé par le paddock, en fait.
Et je regarde à Thermal, il était même pas dans les 12. Donc. Quoi, non, il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller sans se mettre de pression. Toute expérience est bonne à prendre. Puis il fera le bilan après.
Ouais, mais il y aura son bilan à lui, et après il y aura ce que le milieu va en attendre, en fait. Parce qu'il est quand même champion F2, beaucoup s'attendaient à le retrouver chez Sauber, il avait beaucoup roulé avec Sauber, finalement ça s'est pas fait, il est parti au Japon, visiblement ça semble peut-être un peu plus compliqué, ou... Enfin, il est pas en haut de la grille là où il était en F2. Il est dans une voiture, c'est bien, mais j'espère que l'environnement ne surréagira pas si jamais il fait une performance normale, quoi, entre guillemets, quoi. Et que tout le monde n'entendra pas des miracles.
Ouais, on verra bien.
Bah, oui.
On verra bien comment ça va se goupiller. Autre grosse info, Adrien, Préma, l'écurie Préma, va débarquer en IndyCar la saison prochaine. Et ça, on s'attendait à une nouvelle écurie, on ne s'attendait pas forcément à Préma.
Alors, moi, je m'attendais à pas grand-chose, parce que j'avoue que je suivais l'IndyCar quand même de relativement loin. Mais, j'aurais jamais donné Préma, en fait. Tu m'aurais demandé une écurie en IndyCar. Je pense que je n'aurais même pas pensé à eux, quoi. Après, par contre, Préma, là où ils sont, ils y vont rarement pour cueillir les fleurs, quoi. Donc, grosse attente, du coup.
Bah, puis ce qui va être intéressant, c'est surtout quel pilote, et je mets quel pilote au pluriel, puisqu'il y en aura deux, ils vont recruter.
Ouais, et c'est. Alors autant tu vois quelqu'un comme Théo dans les écuries actuelles, je me disais ouais bof. Peut-être que s'il signait chez Préma qui sera le Chevrolet du coup. J'ai pu comprendre
oui,
qu'il avait fait un passage chez Chevrolet. En plus, je me dis ils doivent le connaître, enfin ils se connaissent forcément vu qu'ils étaient dans le même paddock. Peut-être que démarrer avec des gens qui connaissent, etc., ça sera peut-être plus facile. Et est-ce que ça sera pas un des deux pilotes? J'en sais rien, j'ai aucune info, j'ai pas envie de spéculer dessus, mais quand j'ai vu les deux news se suivre, je me suis dit, ah, il y a peut-être une histoire qui est en train de s'écrire. Et le
Oui.
numéro sur la voiture en présentation, c'est 83, je crois. Et j'ai essayé de lier ce numéro à quelque chose, mais j'ai pas forcément réussi à faire de lien à quoi que ce soit. Mais les numéros en IndyCar, je crois que c'est un peu comme en NASCAR, ils sont fixés sur la voiture et ça dépend pas du pilote, si je dis pas d'annerie. C'est pas comme
Bah,
en F1.
ça dépend beaucoup plus de l'écurie, oui.
Ouais.
Et voilà, on
Donc.
sait que le
Bah, en
numéro 3 est
NASCAR.
chez Penske, le...
Mais ça veut pas
Après,
dire le. Ça veut pas donner le pilote, en fait.
en NASCAR, ils sont de mémoire, hein, tu me diras, Geoffroy, si je me trompe, mais ils sont loués par les écuries.
Oui,
Sinon,
c'est
ils
ça.
appartiennent à la NASCAR, hein, c'est ça, en vrai.
Oui, comment, c'est les écuries qui les récupèrent année après année. Et pendant des années, la RCR louait le numéro 3 sans l'utiliser.
Ouais. Donc bon, je sais pas si on connaît le deuxième numéro, mais je pense que le 83 du coup sera un des deux numéros.
Ok, à tous les coups, on va peut-être faire le 38.
Bah je sais pas s'il est déjà pris, mais ouais j'en sais rien, je sais pas.
38 en IndyCar, ça me parle pas.
Là
Là,
comme
comme ça
ça
me
me
parle
parle
pas
pas
non
non
plus.
plus.
mais en effet ouais les pilotes je sais pas qui je sais pas qui seront les pilotes. Le directeur de la branche NASCAR là, qui était en conférence de presse, moi je le connaissais pas, mais apparemment c'est quelqu'un de connu de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, il n'était pas inconnu aux États-Unis, visiblement. Mais j'ai pas noté son nom, j'ai pas regardé un petit peu son pédigré, mais c'est quelqu'un qui semblait connaître un petit peu la discipline et les États-Unis. Donc, je vais quand même suivre cette écurie parce que, enfin, Préma. En général, où ça va,
Oui,
ça gagne.
c'est pas là pour acheter du terrain.
Ouais. Donc après, il y a des gros clients en face, hein, on va pas détrôner un Penske comme ça, etc. Mais
Non, clairement pas, mais voilà, c'est une pointure qui arrive. C'est pas, même si ça sera considéré comme une petite écurie dans le sens où c'est une écurie arrivante, ça reste quand même la très très grosse structure derrière. C'est pas des mecs qui viennent là et qui n'ont pas les moyens et qui viennent juste parce qu'il y a de la lumière et du chauffage.
c'est une des plus
Ouf.
grosses structures européennes en monoplace. Hein. Enfin, faut voilà, c'est un gros acteur du sport automobile en monoplace
Ben oui.
européen qui débarque sur la place américaine, quoi. Donc
Mais c'est d'autant.
c'est
Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas du tout vu venir. Hein. Parce que
ouais.
c'est quand même assez rare d'avoir, comme tu dis, ouais, des structures européennes qui s'intéressent à cette discipline.
Ouais. Donc très bien. Moi, je dis banco. Je sais pas si on aura d'autres, je sais pas s'ils ouvriront la voie à peut-être d'autres arrivées. Mais ouais non, c'est top quoi. J'espère qu'ils arriveront à jouer rapidement des top 10, des trucs comme ça. Mais c'est top. Ça fait des portes en plus pour potentiellement d'autres pilotes qui trouveraient pas refuge dans les catégories reines. Ça fait des baquets en plus pour ricocher pour ceux qui ont envie de rester dans la discipline. Enfin, c'est tout bénef en fait pour tout le monde. C'est tout bénef pour tout le monde. Et je constate que c'est beaucoup moins compliqué d'avoir deux voitures en plus en IndyCar qu'en Formule 1.
C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, on verra bien. On verra bien comment ça va évoluer. Et je pense que d'ici à la fin de la saison IndyCar, on aura des informations sur le futur de Préma dans la discipline. Je pense même qu'on aura des infos dès le mois de mai. Il reste quand même un mois assez important avec. Plus d'une quinzaine de jours passés du côté d'Indianapolis, pour le
Ce que j'ai
coup.
bien aimé par contre sur l'annonce de Préma, c'est Gilda, je crois, qui a tout de suite tilté avec le Francesco Bernoulli de chez Cars. Et je l'ai vu aussi reprise plein de fois sur Twitter. J'ai bien aimé.
D'accord, j'ai pas la ref, donc.
Ah, c'est la monoplace qui est dans Cars. Elle a les mêmes couleurs que les couleurs représentées par Préma. Et le dessin, c'est pas le même, mais c'est quand même très proche.
Ah oui, effectivement, maintenant que je rade sur le Discord d'IndyCar, oui, effectivement, il y a une
Un
légère
petit air.
ressemblance.
Ils avaient
Donc,
anticipé l'aéroscreen en plus.
ouais, donc moi j'ai bien aimé la petite ref de Gilda, quoi.
ouais, effectivement, bien vu, Gilda. Ouais, non, franchement, ouais, c'est plutôt joli.
Voilà.
Effectivement. Alors, on parlait d'Indianapolis, parce que, enfin, au mois de mai, il y a une petite course assez sympathique à Indianapolis. Hein, Lilian, tu vas pas me contredire. Elle a lieu à la mi-mai, elle est sur le circuit routier. C'est bien ça.
Je veux dire, la mi-mai. Oui. Oui, on l'attend tous, ouais.
Ouais, c'est celle-là qu'on attend le plus, quoi.
Bien sûr.
Non, blague à part, c'est les 500 miles d'Indianapolis qui ont lieu le
Le dernier
dernier
week-end, comme
week-end
d'habitude.
complet du mois de mai. Et du coup, cette semaine, on avait les premiers essais préparatoires du côté d'Indianapolis. On avait 2 journées, mercredi et jeudi. Mais que serait Indianapolis sans la pluie, Lilian? La pluie s'est invitée. La pluie a perturbé grandement la journée de mercredi, puisque l'IndyCar a décidé de bâcher peu après 14 h heure locale. Et la pluie a tout simplement annulé la journée de jeudi.
Et ben c'est tout. On a fait. Heureusement qu'ils ont eu le temps de rouler un petit peu le matin, parce qu'apparemment les conditions, enfin les prévisions les jours d'avant n'étaient pas bonnes non plus. Bon voilà, ça a permis de faire un petit. Enfin, c'est bon après c'est même, c'est un... on va dégrossir un petit peu quoi.
Oui,
Parce que là.
c'est un bon gros déverminage. Mais à noter quand même que pour la 3e fois consécutive, c'est le même pilote qui termine en tête de la première journée d'essai. C'est
Ouais,
Joseph Newgarden.
et puis loin devant. Quand on
Facilement.
voit en vitesse, ouais, il est à 228,811 miles par heure. Quand Kyle Larson, qui est deuxième, n'est qu'à 226,384.
Ouais,
Enfin,
donc
n'est que. Oui, ça fait 4 dixièmes.
ça fait 39, 33 contre 39,75 en termes de temps. Donc voilà, ça fait 4 dixièmes sur un tour.
En ayant fait 46 et 47 tours.
Exactement. Et je suis en train de vérifier ces temps-là. C'était déjà les temps qu'ils avaient fait lors de la session du matin. Donc ils n'ont pas amélioré. Ils avaient fait ça sur leur. En milieu de séance du matin, ils avaient ça tous les deux sur leur 23e tour. Et ils n'ont pas amélioré. Il y a très peu de pilotes, hein, en fait, qui ont fait le meilleur temps sur la séance de l'après-midi, puisque enfin, l'après-midi, la séance a très très vite été interrompue. Au total, sur la journée, il y a eu 1327 tours de couvert. 34
Et les
pilotes ont
34 pilotes ont
roulé.
roulé, ouais.
Les 3 pilotes rookies ont satisfait, enfin, qui devaient satisfaire le Rookie Orientation Programme l'ont satisfait, à savoir Nolan Siegel,
Kiffin
Kevin
Simpson
Simpson
et Christian Rasmussen.
et Christian Rasmussen. C'est bien ça.
Après, il y a Marc Andretti qui a passé un petit refresher.
Oui, qui l'a
Je
validé,
le
tout
cache
comme
souvent. Oui.
Catherine Legueux et Pietro Fittipaldi. Donc voilà, donc c'est bien, ça veut dire que tous ces pilotes-là sont autorisés à participer aux 500 miles. Puisque tant qu'on n'a pas, quand on est, tant qu'on est, enfin, si on n'est pas un pilote à temps plein et qu'on n'a pas roulé la saison précédente aux 500 miles, on est obligé de se soumettre à ces tests-là qui consistent à rouler à une vitesse imposée sur plusieurs tours. Pour valider le fait qu'on puisse.
Ce qu'ils appellent le ROP ou le refresher, il y a deux ou trois phases, ouais,
Il y a
avec une
trois
moyenne.
phases sur le Rookie Orientation Program, mais j'ai toujours du mal avec ça parce que je crois que la 3e phase, c'est quelque chose comme rouler à 210 ou 215 de moyenne.
Ouais. Ce qui est hyper faible, en fait.
Ce qui est hyper faible quand on voit les vitesses atteintes. En rythme de course, on est plus proche des 200, 225, 230 que du 215.
C'est ça.
Mais bon, voilà, c'est l'IndyCar qui fixe les règles. J'ai un peu de mal, je trouve que c'est un peu lent. Voilà. Je rajouterai une quatrième phase où je décalerai les phases, la dernière phase un peu plus haut. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses, Adrien, de ce système qu'on n'a pas forcément en F1, qu'on n'a plus. On avait à l'époque les 107% en qualif, mais c'était pour tout le monde. Mais. N'en pense rien. Ok, merci.
Ouais, non, je sais pas. Enfin, quand c'est pour piéger des cas extrêmes, oui, quoi.
Bah, on n'a jamais piégé des cas extrêmes. Le cas extrême, je pense, Lilian, qui te vient également en tête,
Lotus.
C'est Lotus avec Jean Alévy.
Ouais, c'est ce que j'avais en tête, en fait.
La Berizino.
Ah oui, c'est les mecs, ils allaient presque plus vite en marche arrière.
Bah, c'était des chicanes mobiles, ils avaient été black flaggés.
C'est ça. Et, enfin, ils avaient, vu que c'était pris le départ, ils avaient été validés. Donc, ça veut dire qu'ils avaient satisfait le Rookie Orientation Programme. Et quand tu vois la course qu'ils avaient faite et l'image qu'ils en avaient donnée, en fait, c'est le très bon exemple du Rookie Orientation Programme. Qui n'est pas assez sévère et assez sélectif. Mais de mémoire, c'était une année où on atteignait péniblement les 33 engagés si on n'avait pas eu de monoplace Lotus.
Ouais, mais après, alors j'ai peut-être pas bien suivi ou pas tout compris, ou peut-être les deux. Mais est-ce que pendant ce test, tu roules avec le matériel définitif, etc. en fait?
Oui,
ah bah oui, c'est la monoplace avec laquelle tu vas disputer l'épreuve. Oui,
tu roules pas avec la monoplace en version short track, enfin, ou en version circuit routier. Tu roules avec la monoplace qui est prévue pour les 500 miles.
Parce que, oui, sur ça, je me doute bien, mais enfin, je veux dire, est-ce que tu mets tout à bloc, tu libères les chevaux, tu...
Ah, tu pousses... Non, justement, je
pense
que tu
pousses... Sur un rythme de sénateur, et je comprends qu'en fait, tu peux le faire sur un rythme de sénateur, et ça passe quand même, quoi.
Tu pousses pas tous les potards. Par exemple, j'ai plus les phases en tête. Je sais que la dernière, c'est 210 ou 215. La deuxième, ça doit être autour de 200, et la première, ça doit être autour de 190. Mais si tu fais tes 10 premiers tours à 215, tu valides pas trois phases d'un coup. Tu valides que la première.
Mais entre la vitesse max qu'on te demande d'atteindre et la vitesse max réelle en course,
ben, t'as quand
seul,
même...
je parle, il y a un gros gap quand même, quoi.
Ben, t'as quand même entre 15 et 20 miles, oui. C'est quand même assez conséquent. Je veux dire, en gros, tu as l'écart là entre Joseph Newgarden, il a fait du 228. Pour te donner une idée, Tiffin Simpson, il a fait 216. Miles per heure, donc il est 12 miles plus lent. Il a tourné en 41 secondes 58. Donc il a tourné 2 secondes 2 plus lentement.
J'ai retrouvé le. Comment le... Comment se passe le Rookie Orientation Programme, si tu
ouais.
veux. Donc tu as dit tu dois faire 10 tours entre 205 et 210.
Ouais.
15 tours entre 210 et 215. Et après, c'est 15 tours au-delà de 215.
D'accord. Ouais, donc ils ont un peu changé la donne.
Mais voilà, c'est ce que j'ai retrouvé ouais, sur le site de McLaren, d'ailleurs.
Bref, faut voir quel est l'objectif de ce truc-là, mais... Si l'objectif, c'est d'avoir tout le monde à moins de 10 km/h de la pole de l'année précédente, par exemple, bon, bah ok, tu sais que c'est là pour jouer la gagne, mais comme tu le dis, il faut que tu aies 40 bagnoles et que tu sois en capacité à te permettre de faire du tri et de mettre des gens dehors, en fait.
C'est ce qu'ils veulent.
Ouais, mais quand c'est pas le cas, tu mets pas des critères de sélection où tu fous la moitié du peloton et que tu te retrouves à 5, en fait.
De toute manière, il y a déjà un critère de sélection hein, qui est le bum day.
Oui, quand tu as plus de 33 pilotes.
Oui, quand tu as plus de 33, oui, c'est ça, puisqu'on est toujours avec 11 lignes de 3 voitures. Et quand tu es au-delà de 33, voilà, on a l'utilité du célèbre et parfois redouté bum day, ouais.
Ouais, mais c'est du...
Mais c'est de la qualif au temps et à de la perfo.
Ouais, c'est enfin pour le vulgariser, c'est des problèmes de riches, entre guillemets, quoi. Mm. Ah, c'est comme... non, mais c'est comme la CO aujourd'hui, en fait.
Mm.
La CO aujourd'hui, ils se demandent si ils vont prendre une Porsche, une Ferrari en hypercar, en fait. Et qui vont mettre en liste d'attente aujourd'hui? En liste d'attente, t'as une GTP, enfin t'as une LMDH, qui est numéro 1 en liste d'attente, quoi. Il y a quelques années, la liste d'attente, elle rentrait régulièrement en course. Des fois, il n'y avait même plus de liste d'attente quelques semaines avant le départ de la course. Aujourd'hui, t'es en liste d'attente, tu sais que c'est quasiment mort, quoi.
Ouais.
Donc,
Et
c'est un peu le même principe, quoi.
là où je te rejoins, Adrien, c'est que bah, si les trois pilotes qu'on a cités pour le Rookie Orientation Programme avaient échoué, bah, ils avaient encore une chance aujourd'hui, s'il y avait eu des essais ce jeudi, ou ils auraient eu une chance au mois de mai sur la première journée des 500 miles, et puis s'ils avaient raté bah, sur la deuxième journée d'essai, et ainsi de suite jusqu'au jour des qualifs, quoi.
Ouais, donc ils ont pas le nombre en fait.
Bah, ils
Ils ont pas
ont
le quota
là, ils
max
l'ont, donc comme
aujourd'hui.
tu dis, c'est un problème de riche,
Ils
mais
sont à 34, mais c'est pas bah, figure imposée. Le Reconnaissance Programme, c'est tel jour. Tu passes, c'est bien, tu passes pas, bah tu rentres à la maison.
ouais, parce que si ils font ça, ils remplissent pas la grille en fait.
Il y a une chance qu'ils ne remplissent pas la grille, puisque cette année on a 34, on aura peut-être 35 inscrits. Mais c'est le bout du monde.
Donc, voilà, donc ce genre de truc, bon, faut voir pourquoi c'est faire, quoi, mais si c'est pour faire un semblant de tri de perfo, ouais, ça sert à rien, quoi.
C'est ça. Bon, après, un qui n'a pas fait semblant sur la perfo, messieurs, c'est quand même Kyle Larson. Deuxième temps. Alors, il n'était pas complètement satisfait, il trouvait qu'il avait beaucoup de sous-virages, notamment dans le trafic, et qu'il était là pour apprendre, et juste pour prendre de l'expérience, s'adapter à la monoplace, à ces vitesses-là, s'adapter à la piste et tout. L'adaptation, elle est plutôt rapide et plutôt réussie, parce que deuxième chrono, ça commence à parler. Ok, il prend 4 dixièmes par rapport à Joseph Newgarden, mais j'ai envie de vous dire, c'est le meilleur des autres.
Ah, mais ça
Ouais.
montre encore une fois la capacité d'adaptation de ce pilote,
Et la
quoi.
polyvalence?
Oui, là voilà, la polyvalence, et tu vois, ouais, et après je te laisse parler, Adrien.
Vas-y,
Puis dès
vas-y.
qu'il monte dans une voiture, voilà, il est capable de performer. On sait que dès qu'il va dans un sprint car sur la Terre, c'est pour la gagne. Sur quasiment tous les types de pistes en NASCAR, il est capable de gagner. Et là, voilà, s'il fait les deux courses fin mai, c'est pas pour faire de la figuration et juste pour rajouter une ligne comme ça sur son CV, c'est pour la gagne.
Ouais, je rejoins Lilian complètement. Ouais. C'est un mec qui connaît la piste, même s'il l'a pas roulé dans cette bagnole, il l'a roulé avant dans des NASCAR. Sur Oval, enfin, en NASCAR, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur ou l'un des deux ou trois meilleurs du championnat. Et comme tu l'as dit, bah, quand il monte dans d'autres bagnoles, ça marche aussi, quoi. Donc ce mec a vraiment un talent. Et je serais pas étonné de le voir bien placé et qu'il soit encore là à 5 tours de l'arrivée en train de damer le pion à peut-être un Newgarden qui, rappelons-le quand même, a gagné 95% des dernières courses sur Oval en IndyCar, quoi. C'est depuis un an ou un an et demi, je crois,
Ah
j'ai plus la stat
oui,
en tête, mais il a quasiment tout raflé, quoi.
c'est ça. Il y en a pas beaucoup qui lui échappent, on va dire.
Donc la référence, ça doit être l'une des meilleures des 10 ou 20 dernières années qu'il y ait eu dans la discipline. Et le mec, c'est le premier des autres, quoi. Donc
Et Newgarden, ouais, on voit déjà là avec cette première séance. Bon, il s'affiche déjà avec une belle, belle pancarte de favori, quoi.
mais pour moi, Larson, enfin honnêtement, bah, Larson, je le mets quasiment au même niveau que Newgarden, hein. Pour moi, c'est l'un des favoris de la course aussi, hein. On verra comment il arrive à gérer son truc dans une monoplace, une voiture peut-être un peu plus rigide, etc. Mais dans le peloton, je suis pas trop inquiet. Tourner en rond sur un ovale, je crois qu'il sait faire.
Après, là, c'est ça. Faudra vraiment, comme tu dis, qu'il apprenne à connaître la voiture et comment elle réagit dans le trafic.
Ouais, c'est
Parce
vraiment
que
la
ça,
manie.
je pense que ça doit être quand même très, très différent d'une NASCAR, hein. Bon, je suis pas pilote, mais bon, c'est des voitures quand même qui sont à des années-lumière l'une de l'autre. Tu dois quand même sacrément le sentir hein, dans une monoplace. Donc,
Ouais, mais il a aussi un certain sens de la glisse et un certain feeling avec une voiture, parce que quand il est
Bien sûr.
dans un sprint car, comme tu dis, bah ça gagne quoi. Et moi j'en fais un de mes favoris, quoi, clairement.
Et puis pour Indianapolis, il y a tellement de séances d'essai que, il aura largement le temps de s'acclimater.
Après, j'en fais un de mes favoris. Ça serait génial qu'il gagne parce que ça ferait. Alors, je pense que sur le sol américain, ça ferait le buzz. Je suis pas sûr que. En Europe, on en parlerait un peu. Par contre, pour les pilotes d'IndyCar, je pense que ça serait la honte, quoi. Un peu comme si Van Gisbergen gagnait en NASCAR régulièrement. C'est le mec qui sort des mecs, comme on parlait juste avant de démarrer le podcast, la Lilian. Ça serait le bourrin de la NASCAR qui vient, qui atomise les mecs en IndyCar, quoi.
Bah, c'était déjà à l'époque ce que disait Arnaud si Fernando Alonso gagnait l'épreuve quand il est venu, les deux fois où il est venu. Et encore, Alonso, c'est encore pire parce que lui, il n'a pas la culture ovale.
Bah, je sais pas, enfin pour moi, je sais pas si c'est pire parce que comme tu dis, Alonso n'a pas la culture ovale, mais c'est la Formule 1, c'est soi-disant
Ouais, mais ça
le
touche à
pinacle
tout.
du
Ouais,
truc.
il a fait plein de trucs, hein. Maintenant, il a fait le
Ouais.
Dakar, il a fait de l'endurance, il est retourné en Formule 1 où il est encore performant.
Mais d'un point de. Enfin, c'est la Formule 1, c'est soi-disant d'un point de vue européen le pinacle du sport automobile. Et qui gagne là-bas, entre guillemets, c'est normal, le mec qui vient de la Formule 1, quoi. Là, c'est d'un point de vue européen, c'est le mec qui est pied au plancher et qui fait des accidents sur ovale le week-end, qui vient taper tous les mecs de l'IndyCar. En Europe, la NASCAR, c'est pas ce que je pense, mais la NASCAR, elle a quand même une image de course de brute où les mecs ils tournent en rond pendant 200 tours, quoi. Quand tu t'y intéresses pas, c'est le cliché malheureusement qui est accroché à
Oui.
la NASCAR en Europe. Et s'il venait à gagner l'Indy 500, je pense que le feedback qu'il y aurait entre les États-Unis et l'Europe, je pense qu'il serait complètement opposé. Je pense que tu aurais pas du tout les mêmes sons de cloche sur rien que pour comparer les titres de presse et les trucs comme ça entre les différents sites, les différents médias, etc. J'aimerais qu'il gagne en fait, mais je
Bah.
pense qu'il y aurait deux interprétations.
Ah bah, on complètement d'accord. En même temps, qui connaît Kyle Larson? Ceux qui regardent la NASCAR, c'est tout. Donc ceux qui s'intéressent à la Formule 1, Kyle Larson, c'est un pur inconnu.
Et ceux qui ne le connaissent pas, ils le connaîtront, mais je suis pas sûr qu'on lui dresse un portrait comme on aurait dressé un portrait à Alonso, quoi. Donc, j'en fais un de mes favoris. J'aimerais qu'il gagne parce que je pense que ça serait un énorme coup de pub pour la NASCAR, etc. Mais pour les pilotes d'IndyCar, je pense
Oui,
que
il
ça
aurait
serait à
mauvaise.
double
Hein.
tranchant, quoi.
Oui, ce serait clairement un mauvais signal. Mais bon. On verra bien comment ça va évoluer. C'est vrai que c'est une course assez particulière. Et je pense que les essais du mois de mai nous donneront déjà quelques indices, savoir si oui ou non, Kyle Larson peut faire quelque chose de grand.
Ouais, et tu t'amuses pas à jouer des portières en IndyCar comme tu peux le faire en NASCAR ou
Bah,
tu
disons que
peux les
si tu le
faire.
fais, tu le fais qu'une fois.
Ouais, mais tu réfléchis quand même parce que ça va quand même vite. Hein.
Ça va quand même vite, mais après, c'est vrai que
Bien réfléchir hein, quand même. Hein.
Larson a l'habitude de jouer des portières et du pare-choc en NASCAR de manière régulière. Il a l'habitude des courses sur dirt, mais en IndyCar, alors, on joue pas forcément du. Comment? De l'aileron, on va pas pousser, on va pas forcément au contact. Mais il y en a qui ont l'habitude de claquer des portes en IndyCar, que ce soit dans le virage 3 ou dans le. Enfin, à l'entrée du 3 ou à l'entrée du 1. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être déstabilisant pour lui au début.
Mais c'est, enfin, moi je pensais pas trop à Larson qui joue des coudes, mais plus aux autres qui lui
Qui
disent
joue des coups
bienvenue
sur Larson.
en jouant des coudes en fait.
Mais ça peut être déstabilisant ou alors il restera sur sa trajectoire et ça finira mal pour un des deux, voire les deux.
Ouais, je sais pas, mais pour moi, ouais, grosse attente
Après,
sur Larson, quoi.
les pilotes d'IndyCar, ils savent aussi le danger que ça peut être d'aller au contact inutilement. Parce que bah, tu vas au contact avec une monoplace, l'air s'engouffre sous la monoplace, ça devient un avion. Hein.
Ah bon, on a encore eu un accident assez spectaculaire l'an dernier.
Donc.
Ouais, et puis les derniers gros incidents, il y en a quand même quelques-uns en IndyCar, hein.
Ah oui, il y en a malheureusement régulièrement. J'ai encore les images de Scott Dixon entre le 1 et le 2 en 2017-2018.
Oui.
Du
Moi,
coup,
j'avais Robert
bon.
Vickens à Pocono.
Ouais,
Il y a
moi
Robert
j'avais
Wickens,
celui-là aussi.
ouais.
Après, t'as Weldon, bon, c'est un peu plus loin déjà, mais.
À Las
Enfin, les deux,
Vegas,
trois
là.
dernières grosses boîtes où ça se passe pas bien à la fin,
Oui,
il y en a
oui, oui.
quelques-unes en IndyCar, quoi.
Ah oui. Il y en a quelques-unes, oui. Donc on verra bien. Après, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt des pilotes d'IndyCar d'aller souhaiter la bienvenue à Kyle Larson de cette façon. Je
Non,
pense que
bon, je...
personne n'en sortirait grandi. Même si après.
c'est pas la culture dans cette discipline. Hein.
C'est pas la culture, tout à fait.
Après, encore une fois. Hein,
Mais
tu.
c'était, enfin, je l'ai mal dit, mais c'est ce que je voulais dire. C'est pas trop la culture de l'IndyCar, ça l'est plus en NASCAR.
Oui, mais encore une fois, qu'est-ce que ça porte contre monoplace avec des roues ouvertes, quoi. Il y a un monde dans lequel ça se passe mal, dans l'autre, ça peut bien se finir. Donc voilà un petit peu, messieurs, pour l'IndyCar. Donc on l'a dit, New Garden devant Kyle Larson, on peut quand même citer le reste du top 10. Même si je ne sais pas si ça a grand intérêt, c'est pas forcément représentatif. Mais on a Scott Dixon, Alex Palou, Colton Herta. Ensuite, on a Scott McLaughlin, Ed Carpenter, Kyle Kirkwood, Christian Rasmussen et Felix Rosenquist. Autrement dit, on n'a pas de surprise. Hein. On n'a pas
Ah,
de
Martin
pilote
Ericsson,
qui ne devrait
14e.
pas être là. Oui, mais enfin après. On n'était pas dans les monoplaces, on ne sait pas les quantités embarquées, on ne sait pas le travail effectué. Est-ce que, tu vois, Ericsson s'est concentré sur une partie du programme pour Andretti pendant que Colton Herta en faisait une autre? Il n'y a que la Andretti qui a la réponse. Moi, enfin, la lecture des résultats, ça ne me choque pas. Je veux dire, quand tu regardes Ericsson, bon, ok, il a fait que 26 tours. Mais c'est pas non plus complètement infamant, quoi.
Par contre, tu vois, un Rossi 28e, ça, tu t'y attardes un petit peu plus. Tu vois, il a quand même fait 35 tours, mais comme tu dis, peut-être qu'il se... Comment? Peut-être qu'il est concentré sur une partie bien particulière pour aller récolter des données.
Oui, voilà, on n'y est pas. Hunter Ray, 34e avec seulement 7 tours. Bon.
Alors lui, j'écoute en interview, il a eu des problèmes électriques.
Ouais, voilà, il y a eu des soucis mécaniques qui n'ont pas
Ouais,
aidé,
ouais, ouais. C'est ça.
mais tu sais qu'en fait, là, tout ce travail-là qui a pas pu être fait, bah, c'est du temps de perdu pour le mois de mai. Et à Indianapolis, enfin, ils vont pas rajouter des séances d'essai parce que ils n'ont pas la capacité de.
Et puis, il y en a déjà bien assez.
Ouais. Oui et non, en fait,
Là,
j'ai envie de. C'est tellement particulier, le réglage est tellement pointu à trouver que toutes ces séances d'essai sont indispensables. Quand tu regardes bien les séances d'essai, les mecs, ils font pas trois tours et ils rentrent, et puis après, c'est le copain, et puis ils ressortent plus du tout de la journée. Ils font tous 50, 70, 100 tours. Enfin, ils roulent énormément pour trouver le bon réglage, que ce soit pour les qualifs ou pour la course. C'est une piste vraiment particulière, Indianapolis.
ah ouais.
On pourrait croire, d'un point de vue européen qui ne s'intéresse pas à ça, que c'est facile parce que c'est un ovale avec quatre lignes droites, quatre virages. Et je caricature volontairement, il y a juste à tourner le volant au bon moment et rester soudé et tout se passe bien. Ben, en fait, non, parce que tu te rends compte que l'approche du 1 est différente de l'approche du 3, l'approche du 2 est différente du 4. La vitesse en ligne droite arrière est différente de la vitesse en ligne droite avant. Enfin, voilà, il y a des réelles différences et savoir aller vite à Indianapolis, ben, c'est un exercice particulier. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, on verra bien. On aura tout le temps d'y revenir sur la seconde quinzaine du mois de mai, sur ce qui se passe à Indianapolis. parce qu'entre Splash and Go et Overtime, je pense qu'on aura du temps pour parler de tout ça. Mais voilà, c'était des essais qui étaient importants, qui ont permis de valider un petit peu les premiers réglages en vue des 500 miles. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, parce qu'on a été très bavard sur cette période des 500 miles.
On aura encore largement le temps d'y revenir.
On aura encore largement le temps d'y revenir. Ok, très bien. Je vais juste terminer, messieurs, avec une petite actualité là, qui est tombée pendant qu'on parlait de l'IndyCar et qui concerne la NASCAR, qui concerne la Xfinity et les 8 dernières courses de la saison. Eh bien, figurez-vous qu'elles seront diffusées sur la chaîne CW aux États-Unis. CW qui prendra la suite
de
la Fox et de NBC la saison prochaine. Les courses seront produites par NBC, mais seront diffusées sur CW. Et aux commentaires, on retrouvera bien Rick Allen, Steve Letarte et Jeff Burton. Et donc, les 8 dernières courses de la saison régulière, c'est pas... Enfin, les 8 dernières courses, pardon, c'est pas anodin. Ça correspond à la finale de la saison régulière et les 7 courses des playoffs. Puisqu'en Xfinity, on a 7 courses. On a 2 tours de playoffs plus une finale. Donc voilà, c'est un petit peu la dernière info qu'on a eue pendant qu'on enregistrait l'émission. Info d'importance du côté de la NASCAR. Messieurs, ce que je vous propose, c'est d'en rester là, de donner rendez-vous pour celles et ceux qui veulent ce week-end sur le Discord pour suivre les courses, mardi prochain pour débriefer ce qui se sera passé du côté du Texas, et dans Overtime la semaine prochaine pour parler de tout ce dont on n'aura pas pu parler dans Splash and Go, et puis présenter aussi les courses du week-end suivant, à savoir Long Beach du côté de l'IndyCar et un petit tracé dans l'Alabama que tu connais un petit peu, Adrien. C'est pas un short track, mais presque le Talladega Super Speedway.
Eh ouais, Zizmore Zano Race.
Ouais, exactement. Exactement. Donc voilà, on reviendra sur tout ça la semaine prochaine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Adrien, je crois que c'est la partie où tu dis des pouces, des likes, des machins, des
abonnez-vous.
Notes et compagnie, abonnez-vous.
Ouais, non, mais après c'est sûr que ça fait un peu le mec qui force, quoi, mais c'est pas des paroles en l'air. C'est vrai que aujourd'hui c'est comme ça que ça marche, et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour donner vos notes quand on fait les émissions de Splash and Go. À donner votre avis, laisser des commentaires, des choses comme ça. Quoi.
Et puis à nous rejoindre.
Ça nous aide aussi.
C'est ça. Ça nous aide. Et à nous rejoindre sur le Discord pour pouvoir communiquer avec toute la communauté US Racing.
Ouais, le Discord, je sais même pas où est-ce qu'on peut trouver le lien. Je sais qu'il est sur YouTube dans les vidéos, par exemple.
Il est partout. On le retrouve partout. Et puis au pire, si vous le trouvez pas, vous nous contactez sur les réseaux sociaux et on vous le donne. On n'est pas comme ça. On va vous laisser en carafe alors que vous recherchez le Discord. Merci Adrien d'être venu. Merci Lilian également. Comme d'habitude, vous êtes là. Et puis rendez-vous très très vite sur US Racing pour de l'actu et pour des courses. À bientôt. Bye bye.
Bye bye.
Ciao, ciao.
We'll be right back.